Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a développé des nouvelles compétences de vibe coding. Même si on n'est pas des programmeurs, on a vu rapidement qu'on pouvait programmer des applications pédagogiques et il y avait un intérêt là-dedans.
Autant c'est merveilleux que nos yeux s'ouvrent très, très grands, autant qu'il faut prendre un temps d'arrêt et dire « Est-ce que je suis en train de mettre la technologie de l'avant versus le besoin? »
Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Cadre 21 et animé par Maxime Telchat lors du Rendez-vous CP 2026, un événement organisé par Immersion CP.
Pour la deuxième année au Rendez-vous CP, on a une activité qui s'intitule le Studio d'expérimentation, qui est propulsé par la dynamique équipe et communauté du Pôle FAD au campus numérique. Et j'ai deux personnes avec moi qui viennent s'asseoir puis qui, demain, dans la deuxième journée du rendez-vous, présenteront ce qu'ils ont fait. Alors, je vous remercie de nous faire une petite incursion un petit peu plus en profondeur parce qu'il y aura un choix déchirant pour plein de monde demain et on ne pourra pas aller tout voir. Donc là, on a un petit moment privilégié peut-être pour en parler un peu. Je vous laisse vous présenter.
Oui, Catherine Bigrat-Dunbury, je suis conceptrice pédagogique à HEC Montréal depuis 12 ans.
Hey.
René Bélanger, conseiller pédagogique au cégep de Matane. Je suis au cégep depuis 13 ans.
Oui, des gens d'expérience.
Oui, oui, évidemment.
Qu'est-ce que vous allez présenter demain? Là, on est dans, peut-être dans de la nouveauté. On pourrait même dire que c'est hype un peu là, de ce temps-ci. Ça se peut-tu?
Oui, c'est ça. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a développé des nouvelles compétences en fait de vibe coding. Même si on n'est pas des programmeurs, on a vu rapidement qu'on pouvait programmer des applications pédagogiques, puis il y avait un intérêt là-dedans. Puis en fait, avec le pôle expertise, Catherine faisait la même chose de son côté. Donc, on a travaillé ensemble pour élaborer l'atelier là, d'expérimentation de demain.
Ah, fait que c'est une... Dans le fond, c'est une rencontre via
oui.
Le pôle... Ah, ça, c'est fantastique, ça.
C'est comme du speed date de
absolument,
compétences.
Absolument.
Honnêtement, wow. Oui. Puis pour moi, c'est venu d'emblée de demander du côté du pôle d'expertise, est-ce que je peux animer quelque chose? Parce que moi, j'ai découvert ça aussi au courant de la dernière année. Et je me disais, mon Dieu, quelle belle démocratisation du codage. Mon passé m'a amenée à être technicienne en multimédia pendant un court moment. Mais là, tout d'un coup, je voyais l'occasion de transmettre quelque chose qui était pour la plupart hors de portée à quelque chose de très accessible. Donc, ouais, vibe coding, en effet, s'il y a un hype, puis c'est pas pour rien, ça pique la curiosité de plusieurs.
Ouais. On pourrait parler probablement longuement du potentiel dans l'enseignement et tout ça, mais puis je présume qu'il y a une partie de la présentation que vous allez faire, puis tu sais, de ceux qui vont aller peut-être expérimenter avec vous demain vont pouvoir avoir la chance de se mettre les mains dedans. Mais si on se ramène à la perspective de la personne conseillère pédagogique, qu'est-ce qui vous a attrapé dans le fond, tu sais, sur cette nouvelle possibilité-là, dans le fond, tout d'abord, dans votre posture de CP?
De mon côté, c'est de répondre aux besoins des enseignants. Donc, des fois, il m'arrivait avec des choses, j'étais plus ou moins capable de leur répondre ou de développer de quoi. Puis le vibe coding a fait que, hey, attends, je peux te créer une petite application qui va répondre à ton besoin rapidement, faire du public postage ou de la fusion, c'est un peu complexe. Puis je me suis rendu compte en développant une petite application, l'enseignant n'avait pas besoin de tout faire, le codage puis tout le processus de fusion. J'y donnais un outil qu'il mettait sur son bureau. Puis ça fonctionnait, puis ça répondait à son besoin. Fait que ça a ouvert énormément de possibilités. Fait que chaque fois qu'un enseignant vient me rencontrer, c'est peut-être qu'on peut te faire une activité, je peux te programmer quelque chose qui ferait ton affaire. Fait que ça a changé vraiment la dynamique, faire des activités beaucoup plus ludiques, en fait, quand on programme des mini-applications. Ça fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Des fois, l'écriture d'un programme, je fais rapidement un site web avec les cours, qu'on voit un visuel du cours sur 3 ans, même si les cas n'ont pas encore produit de grille ou de ça. Fait que du côté du CP, moi, c'est un gain de temps puis de montrer rapidement un produit fini, en fait, à l'enseignant. Là, que c'est-tu ça que tu veux? C'est-tu ça que tu veux que ça fasse?
Oui. Du côté du prototypage, je trouve ça merveilleux. En effet, on y arrive rapidement à traduire des idées, des besoins en un premier prototype qu'on peut discuter autour. Ça vient vraiment des éléments qu'on peut itérer facilement. Également, là, tu parlais de processus. Il y a une lourdeur, là, parfois, dans nos institutions sur le plan des équipes techniques, d'informatique. Et là, il y a vraiment une autonomisation. Autonomisation, oui! une agentivité, là, c'est le mot de l'heure aussi, puis c'est ouais. Pas pour rien. Là. On remet les clés de quelque chose qui, autrement, devait s'inscrire peut-être dans plus d'étapes, plus de temps. Donc, pour moi, c'est vraiment une occasion de fournir aux enseignants un coffre à outils qui leur permet vraiment de traduire et Et il y a une démarche réfléchie qui doit venir avec le vibe coding. Autant c'est merveilleux que nos yeux s'ouvrent très, très grands, autant qu'il faut prendre un temps d'arrêt puis dire, est-ce que je suis en train de mettre la technologie de l'avant versus le besoin? Donc, prendre un temps d'arrêt, définir le besoin. Est-ce qu'il y a un outil existant qui existe déjà dans l'institution qui permet de répondre aux besoins? Puis par la suite, si on se dit, ben non, ça vaut la peine, ben allons-y. Puis certainement qu'on peut ouvrir les possibilités puis avoir des avenues plus créatives que ce qu'on aurait pu autrement avec les équipes qu'on a actuellement, là, donc...
C'est vraiment intéressant parce que j'attrape là un peu votre posture de facilitateur, mais pas juste facilitateur, accélérateur, parce que là, tu fais référence, Catherine, à cette posture de réflexive aussi. Là. Oui. Donc, il y a comme un « on va faire plus, on va peut-être même faire plus vite ultimement, mais on va le faire comme de façon réfléchie, de façon éclairée aussi. » Ça, c'est, je présume qu'il y a là comme un aspect multidimensionnel intéressant dans votre posture de CP là-dessus.
Bien, en fait, il y a un danger de cette facilité-là à faire des petites applications, d'en faire trop, puis qu'il ne soit pas réfléchi nécessairement. Ça fait que notre posture, c'est d'amener, comme Catherine le disait, on a-tu besoin, qu'est-ce qu'on veut développer, sur quel document qu'on veut s'appuyer, qu'est-ce qu'on veut que ça produise à la fin. Parce qu'au début, dans l'effervescence de découvrir ça, on produit plein de choses. Puis, à un moment donné, je sais plus qu'est-ce que j'ai produit, puis c'est où. Fait que là, finalement, il y a comme un... T'sais, revenir un peu à l'essentiel, dire, attends une minute, là, on va développer de quoi de bien, on va structurer ça. Fait qu'avec les enseignants, moi, je suis rendu là, j'ai montré à deux enseignants à le faire. Puis, ils font des activités, puis là, ils sont comme... Ils sont venus des gigs, là, sans même connaître. J'ai une prof qui dit « Ah, je t'ai fait un autre fichier HTLM. » Non, c'est HTML. Mais elle comprend, là, elle programme, elle fait ses exercices en comptabilité, mais je trouve ça le fun de quelqu'un qui est complètement néophyte, d'y avoir donné un peu des guides, elle a compris le bienfait de la chose, puis elle a fait des exercices beaucoup plus interactifs avec ses étudiants.
Oui. Ouais, puis t'as vu le même genre d'éclair dans les yeux des personnes avec qui t'as pu expérimenter?
Certainement. Oui, certainement. Puis je le vois aussi auprès de mes collègues en tant qu'un service de pédagogie. Mais nous aussi, on a à développer du matériel pour nos enseignants et enseignantes, à réfléchir à nos façons de communiquer, nos connaissances, nos compétences. Puis tout d'un coup, ces outils-là viennent aussi pour nous très... s'inscrit dans notre coffre à outils aussi de conseiller pédagogique qui doit réfléchir à comment traduire des concepts en outils, en interaction du côté des enseignants-enseignantes. Donc, pour nous aussi, là, c'est un must-have dans notre pratique. Puis, autant pour le cours en ligne que le cours en présence, ce que je trouve merveilleux, c'est que tout d'un coup, tous nos bons principes qu'on avait pour l'enseignement en ligne sont en train d'infuser dans la classe notre réflexe de design pédagogique qu'on avait pour une activité en ligne, ou cours hybride ou 100% en ligne, bien, tout d'un coup, là, on offre les clés aussi aux enseignants en classe. Puis ça, pour moi, je trouve que c'est une belle occasion de réfléchir à ces principes-là pour d'autres contextes d'enseignement.
Wow!
Puis ce que je trouve aussi intéressant, puis demain, ce qu'on va voir aussi dans la présentation de notre atelier, c'est de... Des fois, tu as des documents qui sont... c'est un peu dur à lire aussi, mais c'est quand même des bases, mais on peut les rendre un peu plus actifs dans une application HTML où on peut aller interroger la base de données, lire des choses. Fait que ça, j'ai trouvé ça aussi une autre dimension intéressante d'aller voir, bien, tu as des outils qui sont des fondements pédagogiques, des choses comme ça, mais on va le rendre un peu plus digeste pour les profs puis d'une façon plus agréable pour le visuel aussi. Fait que demain, on va présenter, entre autres, des documents qui sont produits par le tableau de l'université, donc des... Et on va aller le rendre un petit peu interactif pour que les gens l'utilisent. On faisait beaucoup aussi de co-développement. Puis les gens apportent des solutions en co-développement, mais comment on ramasse tout ça? Fait que là, je fais une application où ils résument tous les co-développements, les solutions. Puis les enseignants peuvent aller chercher là-dedans, gestion de classe, tout ça. Fait que c'est beaucoup plus digeste qu'un papier ou un PDF qu'on envoie. Fait que c'est vraiment une plus-value. Puis on découvre encore là, plein de possibilités.
Puis je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. Pour moi, c'est aussi d'offrir la possibilité de... réfléchir au contenant. Les enseignants-enseignants arrivent avec du contenu. Nous, équipe CP également, on a du contenu. Puis tout d'un coup, avec le vibe coding, on offre la possibilité d'élargir les possibles sur le contenant. Donc, tout ce qui est la charge extrinsèque. Puis en effet, tout d'un coup, des contenus qui sont sous format PDF peuvent être interactifs, peuvent être disposés différemment. Puis pour moi, ça, c'est une clé pour rendre l'apprentissage plus... personnalisé, finalement, aux étudiants et étudiantes qui ont des besoins différents. Donc, je trouve que c'est aussi une belle démocratisation à ce niveau-là, la démocratisation du contenant.
Wow! Mais c'est intéressant parce que c'est ça, on n'est pas toujours, comme personne enseignante, des spécialistes du contenant. Hein. C'est pas, c'est pas là-dessus, mais on a bien vu que la qualité du contenant, ça aide.
Ouais.
Ça aide à l'approprier et peut-être même des fois à en voir des potentiels qu'on n'aurait peut-être pas vus s'ils étaient comme présentés de façon aride ou trop... ou fixe.
Exact. On le consulte plus, c'est plus attractif aussi avec des petites commandes comme, ben, je sais que Catherine a travaillé là, mais Design UX, tu ajoutes quelques éléments à ton IA, puis là, ça développe quelque chose de vraiment visuellement intéressant, ce qu'on n'aurait pas pu faire avant. Moi, j'étais toujours un peu limité, connaissais un petit peu l'HTML, mais pas assez pour programmer. Mm-hmm. Ben, il y a bien des projets qui avortaient pas parce que j'avais pas cette capacité-là. Puis là, comme CP, ben, je passe à travers ça sans que ça me demande trop de temps. Puis, tu sais, on fait des. Avant de partir, j'étais avec quelqu'un aux ressources humaines parce que ça déborde l'enseignement, même l'organisation des ressources humaines, les suivis de candidats. Bien, je dois te faire une petite application sur ton bureau qui va te mettre des alertes et tout ça. Puis, c'est pas dans le nuage, c'est juste sur ton bureau, c'est en HTML. Ça fait qu'il n'y a pas d'enjeu au niveau de la loi 25 et tout ça. Puis, là, elle dit mon doux, elle dit en une heure, tu m'as développé une appli avec des alertes, des infos, puis tout ça. Puis, elle est repartie, elle était super contente. Fait qu'il y a beaucoup d'applications comme ça. Puis à tous les jours, quand les gens viennent, je regarde, bien, ça peut-tu répondre à quelque chose? Puis les gens, ce qu'ils aiment, c'est la rapidité avec laquelle on peut le faire. Puis là, demain, on va le voir avec les autres CP. Oui. Là, ça va être un peu un univers à découvrir des fois pour eux qui ne connaissent pas ça, mais ils vont voir au fil du temps ce que ça peut leur apporter dans le travail.
Là. Certainement. De notre côté, là, pour faire un parallèle avec ce que tu dis au niveau ressources humaines, de notre côté... les orthopédagogues, Catherine Léger, pour ne pas la nommer, elle a introduit le vibe coding dans sa pratique pour développer des outils personnalisés pour les étudiants sur le plan de l'orthopédagogie. Donc, je trouve vraiment que de s'y intéresser, ça l'ouvre des portes là, à tout plein de rôles dans nos institutions. Puis, ben, travailler en collaboration, ouais. Comme j'ai eu la chance avec René, ben, on s'est nourris nous autres aussi. Donc, ces petites communautés de vibe coding-là, je pense que c'est intéressant de les développer. Puis demain, en effet, ça sera une occasion de l'agrandir ouais. encore, notre communauté, puis d'amener d'autres gens à l'intérieur de celle-ci. Puis je trouve ça stimulant.
Vraiment un aspect fondamental de la pertinence de cette rencontre-là, du rendez-vous CP, de ce partage ouais. d'expertise-là, puis du réseautage, puis de où est-ce que ça peut nous mener après ça. Parce que là, tu sais, il y a plein de possibilités. J'aurais quasiment le goût de se dire, on se donne-tu rendez-vous l'année prochaine pour voir le chemin parcouru, tout
c'est
ça.
Voir comment ça a évolué. Ouais,
oui, effectivement, parce qu'on sait que dans ce domaine-là, ça va vite, oui, mais de voir tous les potentiels, parce que je trouve ça fort intéressant de vous entendre, parce que ça ramène... le CP à être une personne qui est peut-être un spécialiste de détecter les besoins.
Oui.
Puis de peut-être faire le tri, dans le fond, il y a l'accessoire, l'essentiel est là, on va travailler là-dessus. Fait que je serais vraiment intéressé d'en savoir plus l'année prochaine après peut-être une communauté contaminée par ce potentiel-là, puis de voir comment ça peut avoir grandi. Merci beaucoup de vous être assis avec moi, puis je vous souhaite un beau studio d'expérimentation demain. J'ai hâte d'avoir les retombées, puis si je ne me trompe pas, il y a de la documentation qui sera disponible via la plateforme de Campus Expertise pour pouvoir justement avoir accès aux éléments de base que vous avez présentés. Puis,
certainement.
Donc, des ressources complémentaires peut-être pour s'inspirer aussi. Donc, on remercie Campus Expertise pour ça.
Merci.
Merci beaucoup.